Et le journal est présenté par Aurélie Kiefer. Bonsoir Aurélie.
Bonsoir Hervé, bonsoir à tous. Téhéran menace de ne plus respecter l'accord international sur le nucléaire iranien. À compter du 27 juin, ses réserves d'uranium enrichi dépasseront la limite imposée. L'Espagne rejoint la France et l'Allemagne dans leur projet d'avion de combat du futur. Les trois pays ont signé un accord cadre de coopération pour développer ce système de combat aérien. La République En Marche adoube ses premiers candidats pour les élections municipales. Le parti présidentiel cherche à améliorer son maillage territorial face au Rassemblement national. Et pendant que les lycéens planchaient sur les premières épreuves écrites du baccalauréat, certains enseignants manifestaient contre la réforme du bac. Reportage de Steven Goyer. Dans un contexte de très forte tension entre Téhéran et Washington, l'Iran annonce qu'il ne va bientôt plus respecter l'accord international sur son programme nucléaire conclu en 2015. L'accord avait du plomb dans l'aile depuis que les États-Unis s'en étaient retirés unilatéralement en mai 2018. Aujourd'hui, Téhéran annonce que ses réserves d'uranium enrichi dépasseront à partir du 27 juin la limite imposée par l'accord. Alors en lançant ainsi le compte à rebours, Christian Chéneau, qu'est-ce que le pouvoir iranien espère obtenir ?
À la pression maximale des États-Unis, l'Iran répond par une stratégie de tension maximale. Téhéran n'a pas l'intention de sortir de l'accord sur le nucléaire de 2015, nous confiait récemment un diplomate iranien, mais la République islamique n'entend pas non plus rester les bras croisés. Le pays est aujourd'hui asphyxié économiquement par les nouvelles sanctions américaines et ne peut pratiquement plus exporter son pétrole, sa principale ressource budgétaire. L'Iran veut donc dégrader progressivement l'accord nucléaire, comme il l'a annoncé le 8 mai dernier. Concrètement, son agence atomique va accélérer la vitesse de ses centrifugeuses et dépasser le plafond des 300 kg d'uranium enrichi à 3,67% prévu dans les clauses de l'accord. Quant au réacteur à eau lourde d'Arak, les autorités iraniennes réfléchissent également à une augmentation de la production pour aller au-delà des 130 tonnes autorisées. Pour Téhéran, c'est un appel du pied aux Européens qui ont jusqu'au 8 juillet prochain pour trouver une parade aux sanctions américaines. Or, jusqu'à présent, le mécanisme commercial imaginé par Paris, Londres et Berlin, baptisé INSTEX, n'est toujours pas opérationnel. Les Iraniens mettent donc aujourd'hui la pression sur l'Europe avec une stratégie de la tension pour qu'elle prenne ses responsabilités afin de faire bouger les lignes sur le plan économique. C'est une manœuvre à haut risque car l'Iran surestime sans doute la volonté politique des Européens qui sont tétanisés face à l'Amérique de Trump qui n'attend qu'un faux pas pour passer à l'action.
La 53e édition du Salon aéronautique du Bourget s'est ouverte aujourd'hui et cette première journée était placée sous le signe de l'avion de combat européen du futur, un projet phare pour la défense européenne. La France, l'Allemagne et l'Espagne ont signé un accord cadre de coopération pour développer le système de combat aérien qui doit remplacer les Rafales et Eurofighter à l'horizon 2040. À quoi ressemblera cet avion du futur ? Vous avez pu vous en faire une idée, Nathalie Hernandez, en vous rendant sur le stand du ministère des Armées.
Bienvenue en 2040 dans le cockpit du futur. L'homme ne sera plus seul aux commandes. Comme vous l'entendez, l'intelligence artificielle sera là à chaque instant, explique l'ingénieur principal Alexandre.
La principale innovation de ce cockpit, c'est l'assistant virtuel, qui est un véritable équipier virtuel du pilote, qui va jouer plusieurs rôles, donc un rôle d'analyste, c'est-à-dire qui va synthétiser l'ensemble des informations issues des capteurs et envoyées par les équipiers. Un rôle de conseiller, c'est-à-dire qu'il va pouvoir élaborer des plans, formuler des recommandations aux pilotes, tout en les argumentant. Également un rôle délégué, donc c'est-à-dire qu'il va exécuter certaines tâches. Et un rôle qu'on dit d'ange gardien, c'est-à-dire assurer l'autoprotection de la plateforme.
Donc là, par exemple, la situation, c'est l'intelligence artificielle, c'est la voix féminine qu'on a entendue.
Exactement.
Elle a donné quoi comme information aux pilotes ?
Alors elle a synthétisé l'ensemble des informations grâce aux fonctions d'apprentissage. Elle a pu identifier le type d'avion ennemi. Également, elle a pu élaborer une proposition de trajectoire liée à l'engagement aérien. Et également l'activation du mode 3D au moment où la situation devient complexe pour permettre au pilote d'avoir une meilleure représentation spatiale.
Et si le pilote a un coup de fatigue, eh bien l'assistant virtuel le rappellera à l'ordre. Des capteurs physiologiques seront intégrés dans ce cockpit et sur le casque du pilote. Un bruit, des affichages le remettront dans le droit chemin.
Nathalie Hernandez au salon aéronautique du Bourget pour France Culture. Il y a 15 jours, un homme politique était assassiné en Allemagne. Walter Lübcke, élu local de la région de Hesse, a été tué d'une balle dans la tête sur sa terrasse. Ce week-end, les enquêteurs ont arrêté un homme de 45 ans. Il vient de l'extrême droite. Et selon les enquêteurs, Ludovic Piétenu, il s'agit bien d'un assassinat politique.
Oui, ce sont des traces d'ADN retrouvées sur les vêtements de la victime qui ont permis aux enquêteurs d'interpeller Stéphane E., un homme connu de la police, en effet, pour ses participations à différents rassemblements d'extrême droite et néo-nazis, notamment le 1er mai 2009 contre des syndicalistes. Il avait été arrêté puis condamné à une peine avec sursis. Dans son casier judiciaire également, une autre condamnation. Il n'avait que 20 ans et s'en était pris à un refuge pour demandeurs d'asile à l'aide d'une bombe artisanale posée sur une voiture. L'engin n'avait pas explosé. Les enquêteurs se base sur cet activisme politique pour motiver le meurtre de Walter Lübcke. Cet élu régional s'était fait des ennemis en soutenant publiquement la politique d'accueil des réfugiés de la chancelière Angela Merkel en 2015. Il avait été insulté et menacé à l'époque sur les réseaux sociaux. À l'annonce de sa mort il y a 15 jours, ont fleuri des commentaires de satisfaction. C'est cynique et répugnant, avait alors dit le président allemand Steinmeier. Le principal suspect en garde à vue depuis hier matin aurait, selon les enquêteurs, proféraient des menaces par le biais de sa chaîne YouTube. Si le mobile devait être confirmé, il s'agirait du premier meurtre politique en Allemagne motivé par des idées radicales de droite depuis la Seconde Guerre mondiale.
Ludovic Piétenu en direct de Berlin. De Toulon à Mayenne, en passant par Pontarlier, La République En Marche a dévoilé ses 19 premiers candidats pour les élections municipales. Le parti présidentiel se fixe l'objectif d'atteindre au moins 10 000 conseillers municipaux après mars 2020. Pour cela, il doit réussir son implantation territoriale et il va falloir du temps pour trancher les cas épineux, notamment dans les plus grandes villes comme Paris, Lyon, Marseille ou encore Toulouse. Les investitures devraient donc s'étaler jusqu'à décembre. Bonsoir Anne Fauquemberg.
Bonsoir.
Parmi les 19 candidats présents aujourd'hui par La République En Marche, vous avez repéré trois grands profils.
Oui, alors il y a les candidats qui étaient déjà à La République En Marche, comme la députée de la deuxième circonscription du Var, Cécile Muscotti. Elle va tenter le pari de ravir la ville de Toulon au maire LR sortant, Hubert Falco, qui enchaîne les mandats depuis 2001. Autre profil, les têtes de liste issues de la société civile. Ils sont très largement représentés. C'est le cas de Rachida Kaout, une entrepreneuse qui se présentera à Ivry-sur-Seine, en région parisienne, ou encore de Gérard Chemla, avocat à Reims, où le maire sortant Arnaud Robinet n'a finalement pas obtenu l'investiture à cause de son ralliement à François-Xavier Bellamy, le candidat Les Républicains lors des européennes. On entre donc ici dans la troisième catégorie, celle des alliances, pas de quartier donc, et Stanislas Guérini, le délégué général du parti, assume.
C'est vrai, nous l'avons dit, un certain nombre de maires ont fait une campagne active pour des listes, et je ne leur jette pas la pierre, qui ne portaient pas les valeurs de La République En Marche. Eh bien, nous avons des positionnements tout aussi clairs sur ces élus-là qui n'ont pas fait ce pas-là et qui n'ont pas fait ce geste vers La République En Marche ou vers la réussite collective de ce quinquennat.
Au contraire, le maire de centre-droit de Valenciennes, Laurent Degallet, loyaliste au moment des européennes, lui, il a obtenu l'investiture LREM et en plus le droit de se présenter sans étiquette.
Alors des candidats d'ores et déjà mobilisés contre le Rassemblement National, Anne.
Oui, le parti se voit comme un rempart face au RN. Le projet, qui sera plus détaillé en septembre, est évidemment progressiste et en cas de risque important de victoire du RN, les candidats seront encouragés à faire un choix républicain. Benoît Mathieu, candidat à Cavaillon dans le Vaucluse, connaît bien le RN. Le parti de Marine Le Pen y a fait 38% aux dernières européennes. Mais le jeune entrepreneur est prêt à relever le défi.
On va parler d'écologie dans une campagne. Je crois qu'on ne l'a jamais fait ou très peu fait à Cavaillon. On va proposer des solutions qui sont basées sur un diagnostic territorial. On est allé voir les Cavaillonnais, on leur a posé des questions. Et finalement, être au contact des citoyens, c'est ce qui permet d'apporter les solutions les plus concrètes, les plus réalistes, et pas des solutions populistes, simplistes, comme le fait le Rassemblement National au niveau local.
Voilà, Cavaillon qui est un peu l'exemple type de ce que compte faire partout en France La République En Marche, et notamment dans les campagnes, pour sortir aussi de cette image qui colle à La République En Marche de parti de jeunes urbains.
Anne Fauquemberg, est-il possible d'échapper au temps? Le travail divise-t-il les hommes? Les lois peuvent-elles faire notre bonheur? Petit aperçu des sujets soumis aux lycéens aujourd'hui, épreuves de philosophie pour les filières générales et de français pour les bacs pro. Des épreuves qui ont pu se dérouler normalement malgré l'appel à la grève de la surveillance lancé par certains syndicats. Un mouvement incompréhensible aux yeux du ministre de l'Éducation nationale. Pour comprendre, vous vous êtes allé dans la rue, Steven Goyer, à la rencontre de ses enseignants en colère. Ils vous ont dit leur incompréhension des réformes de Jean-Michel Blanquer, celle du bac et celle de l'école de la confiance. Il se demande ce que devient le service public de l'éducation.
Du fric pour l'école publique. De l'avis général chez les manifestants entre Parcoursup, la refonte des enseignements et la réforme du bac, la copie du ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, est à revoir.
Tout est à refaire, honnêtement.
La correctrice d'un jour, Lucille, est enseignante de français dans l'Essonne. Elle déplore notamment la création des spécialités à choisir dès la classe de seconde. Le processus est déjà lancé pour la rentrée prochaine, avec l'un des premiers effets palpables, la mise en concurrence des enseignants.
C'est une nouvelle méthode de management qui vient du privé, qui s'implante dans le public. On vous dresse les uns contre les autres. C'est-à-dire qu'en fait, chacun d'entre nous doit faire sa pub. Chacun doit dire, prenez la spécialité machin, prenez la spécialité truc. Du coup, ça crée des tensions dans les équipes. Ça empêche effectivement de fonctionner correctement, d'avoir on est obligé de faire des arbitrages, donc du coup, il faut aussi aller faire un peu sa cour auprès des chefs, hein, c'est ça aussi que ça veut dire.
Plus globalement, dans les rangs, on s'inquiète aussi de la concurrence entre lycées sur la question du choix des matières à proposer. C'est le cas par exemple pour Anne-Lise.
Vous avez des lycées qui vont être bien dotés et qui vont pouvoir présenter l'ensemble des spécialités à des premières, hein, et puis des lycées qui ne peuvent pas. Et ça, les familles n'en sont absolument pas conscientes. Nous, par exemple, sur une matière comme physique-chimie, ils sont à 20 heures en trop qui ne peuvent pas être assumés par les collègues qui ont déjà des heures supplémentaires. Donc tous les élèves qui se sont inscrits en physique-chimie pour la rentrée, on ne leur a pas dit qu'ils ne pourront pas y aller. Les familles ne le savent pas.
Des déséquilibres malvenus en vue de la rentrée prochaine. Côté syndical, on réclame donc un rendez-vous, une écoute plus approfondie du ministre de l'Éducation nationale, Frédéric Rollet, secrétaire général du SNES-FSU.
Il y a des ajustements possibles. Si on regarde un enseignement comme ce qu'on appelle SNT, c'est-à-dire numérique et technologie, hein, qui est en seconde, personne ne veut l'enseigner dans l'établissement. Parce que personne ne sait ce qu'il faut y faire. Bon, le ministre peut très bien dire, première mesure provisoire, on ne met pas en place cet enseignement à la rentrée prochaine.
Les syndicats entendent bien poursuivre la mobilisation avec un nouveau préavis de grève déposé pour la journée de demain.
En ce jour de baccalauréat, nous partons en Roumanie. C'est avec l'Allemagne le pays de l'Union européenne dans lequel il y a le plus de lycées proposant l'option bilingue français pour le bac. De tradition francophone, la Roumanie accueille aussi 2000 entreprises françaises, ce qui explique en partie l'attrait pour notre langue d'un certain nombre d'élèves ou du moins de leurs parents soucieux de leur avenir professionnel. Hakim Kasmi, vous vous êtes rendu à l'école centrale de Bucarest, l'un des 13 établissements labellisés par la France en Roumanie.
À l'école centrale de Bucarest, le français peut s'apprendre dès le CP, à raison de 3 heures par semaine. Au collège, il est également renforcé, avec 4 heures, et se pratique en petits groupes. Et au lycée, les élèves peuvent directement choisir l'option bac bilingue, soit en filière littéraire ou scientifique. Les S devront préparer la physique et un projet de travail en groupe, l'équivalent de nos TPE, travaux pratiques, encadrés en France. Quant aux littéraires, ils devront préparer l'histoire-géographie, le tout en s'appuyant sur nos programmes, avec des enseignants roumains parfaitement francophones, ce qui demande une certaine adaptation, comme nous l'explique Raïssa Vlat, professeur de français et responsable de la filière bilingue au lycée central.
La leçon doit être discutée, mise en question, si vous voulez, en classe, pour que les élèves aient tout compris et pour qu'ils puissent intérioriser les connaissances. Donc on présente un événement historique et pour mieux fixer ce qu'on a appris, on fait des débats. Et comme ça, on fait l'exercice du français en même temps que l'exercice de l'histoire.
Une pédagogie qu'apprécie Andy, 17 ans, qui est en seconde. Ce jeune homme, qui a vécu 7 ans à Paris, a choisi de préparer le bac bilingue, option français, pour mettre toutes les chances de son côté pour partir et travailler à l'étranger.
J'ai choisi le français parce que je suis venu de France et je voulais continuer à apprendre une langue qui n'est pas connue partout dans le monde. Alors l'anglais, tout le monde le connaît. Tout le monde parle un peu d'anglais. Alors que le français, oui, c'est connu le français, mais c'est une langue plus difficile que l'anglais. Et je pense que ça va plus m'aider dans le futur. On peut avoir un futur en Roumanie, mais je pense que c'est plutôt mieux de partir pour nous les jeunes.
Il faut dire qu'ici, la mobilité est très importante. Chaque année, ce sont 100 000 Roumains qui quittent le pays pour travailler en Grande-Bretagne, en Allemagne ou en France. Une migration qui s'est accentuée et facilitée depuis l'entrée de la Roumanie dans l'Union européenne. Mais si le français est très prisé par les parents d'élèves, c'est aussi parce qu'il offre de très nombreuses opportunités en termes d'emploi. 2000 de nos entreprises y sont installées. Marianne Avichan, proviseur de l'école centrale.
C'est très utile en Roumanie, le français. Il y a beaucoup d'entreprises en Roumanie qui demandent le français. Ils pensent au travail dès le primaire pour leurs enfants. Mais ils pensent aussi aux universités. On a des élèves qui sont partis à des universités en Angleterre. et le fait qu'ils ont suivi un lycée où ils ont parcouru le bilingue français et ils ont passé un bac avec une discipline non linguistique dans une autre langue, c'était un plus pour être admis dans leur université. Voilà, en Angleterre.
En attendant, si la Roumanie, de tradition francophone, veut développer ses lycées bilingues, elle devra en priorité lutter contre le décrochage scolaire qui atteint ici les 18%, soit le double de la France. Le fruit d'un système scolaire qui reste très élitiste. Résultat, ici en Roumanie, seulement 30% d'une classe d'âge atteint le niveau baccalauréat.
Hakim Kasmi. Au tribunal correctionnel de Paris, le procès des époux Balkany se poursuit jusqu'à mercredi. Aujourd'hui, dans le volet corruption et blanchiment de fraude fiscale, c'était les premières plaidoiries de la défense d'Isabelle Balkany et de son fils Alexandre. Le parquet avait requis 4 ans de prison avec sursis pour elle, 100 000 euros d'amende pour lui. Et leurs avocats se sont efforcés de cantonner leur client dans un rôle très secondaire, Florence Turm.
Isabelle Balkany, c'est la grande absente de ce procès après une tentative de suicide quelques jours avant l'audience. Et son avocat, Pierre-Olivier Sûr, commence par dénoncer le climat de vindicte sur les réseaux sociaux. Elle n'a pas pu venir, poursuit-il, mais on sait combien elle plaide coupable. Mais coupable pour des fonds successoraux non déclarés, ces 10 millions d'euros d'héritage venus de Suisse et qui ont servi à l'achat de la Villa Pamplemousse à Saint-Martin. Cette faute qu'elle reconnaît dans une lettre lue à l'audience. L'avocat s'efforce aussi de couper tout lien de corruption dans le dossier de Marrakech. Isabelle Balkany n'a pas à répondre d'autre chose que de blanchiment pour l'achat de meubles. 50 à 100 000 euros, je plaide coupable, s'exclame encore Pierre-Olivier Sûr, mais c'est pas le dossier du siècle. Et quel degré de conscience pouvait avoir leur fils de ce blanchiment de fraude fiscale, enchaîne l'avocat d'Alexandre Balkany. Alexandre Balkany poursuivi pour avoir souscrit des baux fictifs pour la maison de Marrakech, aura effectué 5 jours de prison, faute d'avoir pu payer son propre cautionnement après avoir réglé celui de sa mère. Le parquet a requis une simple peine d'amende le concernant, mais il est déjà, aux yeux de la défense, une victime de la situation. La médiatisation de cette affaire a fait fuir tous ses investisseurs. Bilan, liquidation judiciaire de sa société, 80 salariés sur le carreau et lui contraint de vendre son appartement de Neuilly. Quelle que soit la décision que vous rendrez ainsi, maître Emmanuel Moulin, il a déjà payé le prix fort, tout perdu avant même d'être jugé. Je vous demande de le relaxer.
Florence Turmeau, Palais de Justice de Paris. Une victoire pour l'association des Américains accidentels en France. Ils sont nés aux États-Unis mais n'y ont jamais vécu. En tant que binationaux franco-américains, ils doivent payer des impôts en France et aux États-Unis. Et ils étaient en conflit depuis plus de 10 ans avec le fisc américain qui refusait qu'ils déduisent la CSG, la contribution sociale généralisée, de leurs impôts américains. Eh bien, ils viennent d'obtenir gain de cause, Noémie Philippot.
Tout part d'une interprétation différente de la nature de la CSG. En France, c'est un impôt. Aux États-Unis, depuis 2008, elle est considérée comme une cotisation sociale. Jusqu'ici, les franco-américains devaient se plier à la version américaine et donc payer la CSG en double. Mais délivrance, le 13 juin dernier, les États-Unis s'alignent finalement sur l'interprétation française. Une grande victoire pour maître Stuart Horvitch. Il défend ses binationaux en prise avec le fisc américain.
Le gouvernement a mis trop longtemps à abandonner et j'étais ravi quand il l'a fait. Il a abandonné parce que le gouvernement français a insisté sur le fait que c'est un impôt et pas une cotisation sociale.
Payer la CSG en France devient donc déductible des impôts demandés par Washington. Financièrement, c'est un énorme soulagement pour ces citoyens franco-américains, explique leur avocat.
Il y a probablement 10 à 20 000 citoyens américains qui vont pouvoir être remboursés par le gouvernement américain. 10 ans de taxes, au total, ça peut représenter 100 millions de dollars.
Cette décision de la justice fiscale américaine est loin de signer la fin de l'imposition dans 2 pays pour les binationaux américains. Il s'agit simplement d'une régularisation.
Noémie Philippot, et on vient de l'apprendre, l'ancien président égyptien Mohamed Morsi est mort. Il a été victime d'un malaise pendant une comparution au tribunal, selon la télévision d'État. Issu du mouvement islamiste des frères musulmans, Mohamed Morsi était devenu en 2012 le premier président librement élu de l'histoire de l'Égypte, un an après la chute de son prédécesseur Hosni Moubarak. Il avait lui-même été renversé par l'armée un an plus tard, après de grandes manifestations contre son pouvoir. Il avait 67 ans. Demain mardi, le ciel sera sera gris dès le matin sur la moitié ouest. Les nuages gagneront du terrain au fil des heures. En soirée, le ciel sera menaçant des Pays de Loire à la frontière belge avec de forts orages, des chutes de grêle et des rafales de vent. Rien que ça, de belles éclaircies en revanche dans le sud-ouest et en bord de Méditerranée. Les températures minimales seront comprises entre 11 et 18 degrés. L'après-midi, il fera 19 à 32 du nord au sud jusqu'à 35 dans le sud-ouest.